questions. Nous allons commencer dans 2 minutes. Excusez-nous si nous prenons un petit peu de retard. Nous attendons que les gens s'installent dans la salle. Merci.
Now I can type.
Yeah, because you're a host.
Great, thank you.
Cool. Yep.
Some of the treats here, very dry. You notice that? The little cakes. So there's a picture of the king in every room. I'm finding this unnerving.
Okay. Oh, there we go. Sorry, my brain is here.
You cannot my multitask.
Ear, and my eyes are here. And
can't multitask.
And my brain is like this.
Well, as long as it's like that rather than flatlining.
You see, I'm alive.
Signs of life are good.
I've just got good ideas that I never followed through. Are we ready to start?
If you are.
Okay, so we're going to start this.
Bonjour, nous allons commencer cette réunion ouverte du comité de nomination de l'ICANN. Je suis Stéphane Van Gelder. Je suis président de ce comité 2016. Nous avons beaucoup de membres dans ce comité. Tous ces membres ne sont pas présents à Marrakech pour différentes raisons. Mais nos membres participent soit en personne maintenant, soit à distance. Pour les membres qui sont ici présents, les membres de la communauté, vous allez les identifier par le ruban rouge qu'ils portent. Donc, si vous avez des questions pour des membres du comité de nomination, vous pouvez les contacter et leur poser les questions. Nous sommes très contents de tenir cette réunion avec la communauté pour être sûr que nos processus sont aussi ouverts que possible. Nous voulions, avant de commencer la réunion, expliquer un petit peu le processus suivi par le comité de nomination. Nous savons que certaines personnes qui sont ici présentes connaissent déjà ce processus. Mais je ne suis pas sûre que ce soit le cas pour tout le monde. Étant donné que le comité de nomination réalise un travail très important, et puisque l'approche suivie par ce comité est totalement publique, C'est-à-dire, c'est une approche à deux phases. D'un côté, c'est très public et parfois, il y a un aspect moins public. Il y a parfois des malentendus par rapport à la façon dont nous travaillons. Je vais essayer d'être aussi bref que possible. Je sais que parfois, ce n'est pas très intéressant de commencer la réunion avec une présentation, mais j'aimerais vous présenter quelques diapos concernant le travail du comité de nomination. Avant, j'aimerais faire un tour de table et demander à chacun des membres du comité de nomination de s'identifier, de dire qui ils sont, pour que les gens qui nous écoutent ou nous voient puissent savoir à qui ils ont affaire. Et de cette manière, si vous souhaitez poser des questions à des membres en particulier, ils les auront déjà identifiés. C'est une réunion ouverte, comme son nom l'indique, et c'est une réunion que l'on veut interactive. Donc, je sais que je ne suis pas en face de la communauté et parce que je vous donne le dos. Ce n'est pas très utile, mais comme vous voyez, nous avons le personnel de soutien qui va nous aider à faire en sorte que cette réunion puisse être aussi interactive que possible. S'il y a des participants à distance et que vous avez des questions, vous pouvez les poser aussi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Il n'y a pas de questions stupides. C'est important de savoir ce qui vous intéresse. Une fois qu'on aura fait la présentation par rapport au NOMCOM, nous allons avoir une discussion par rapport au type de questions que la communauté et nous-mêmes sentons que nous devons poser aux candidats qui sont interviewés. Pour des raisons évidentes, nous n'allons pas spécifier les questions qui seront posées parce que c'est quelque chose que les candidats ne doivent pas connaître en avance. Mais j'aimerais échanger avec vous par rapport au type de questions que vous considérez comme étant importantes au moment d'évaluer des candidats. Des questions importantes pour l'ICANN, bien entendu, au vu des objectifs que nous nous fixons. Et nous voulons savoir, de votre part, la communauté, quelles sont donc les questions qui, à votre avis, devraient être posées. Donc, je vais donc passer la parole aux membres du comité. On fera un tour de table. Bonjour, je suis Eduardo Diaz. Je suis représentant du NOMCOM et élu par le NARALO. La RALO d'Amérique du Nord. Bonjour, je suis Sylvia Helen Leite. J'appartiens à la LAC, région d'Amérique latine. Bonjour, je suis Alejandro Acosta. Je représente le RSAC et c'est le système, l'organisation de soutien, le comité consultatif sur la sécurité. Je suis Wolfgang Kleinschwater. J'ai été président du NOMCOM et maintenant je suis président adjoint. Jiro Lanzipuro, j'appartiens à l'Euralo. Dave Kisson-Doyal, je suis représentante de Afralo au sein de la LAC. Bill Drake, j'appartiens à l'unité constitutive des non commerciales, NCUC, pardon. Je suis Kia Kimote, j'appartiens à l'ICANN, staff de l'ICANN, et je travaille pour le NOMCOM. Jens Pergrun, Hans-Peter Hollen, je suis président élu et je suis en entraînement. Je suis Erika Random, je suis personnel de l'ICANN. Amel Koyun, je suis représentant d'ALAC de la région Aperalo, Asie-Pacifique. Moi, je suis élue par le ISPCP de la GNSO, Osvaldo Nova, ICANN Staff, personnel de l'ICANN. Je suis Tom Barrett, Je représente les, l'unité constitutive des bureaux d'enregistrement. Mark Seiden, je représente le SSAC, le Comité consultatif sur la sécurité et la stabilité. Sandra Hoffen, j'appartiens à la LAC. Je suis Malissa Warren, je suis de Pérou et je suis boursière de l'ICANN. Très bien, dit Stéphane Van Gelder. C'est très satisfaisant de voir qu'il y a des membres de la communauté qui sont ici avec nous. Et c'est bien de voir des gens qui ont participé aussi aux travaux du NOMCOM et qui sont présents ici au NOMCOM, parce qu'ils seront capables aussi de vous fournir des informations. Si vous souhaitez les contacter par la suite, ils pourront vous dire quels sont les processus du NOMCOM. Il y a peut-être un chevauchement entre ce que nous présentons et ce qui se passe dans la réalité. Donc nous allons donc faire une petite introduction du NOMCOM. Je vous encourage à m'arrêter si vous avez des questions ou si vous avez des commentaires. Si vous avez des commentaires que vous voulez faire pendant que je décris le NOMCOM, n'hésitez pas à les faire, ce serait utile pour tout le monde. Et je tiens à remercier le personnel de l'ICANN chargé de l'organisation des réunions de nous avoir permis de faire quelque chose que l'on voulait faire depuis longtemps, c'est-à-dire une réunion dans une grande salle qui nous permette de parler avec la communauté et montrer à tout le monde comment nous travaillons. Par le passé, nous n'avons pas pu faire des réunions publiques parce qu'une partie de notre travail est confidentielle, mais nous essayons de faire en sorte que notre travail puisse devenir de plus en plus public. Est-ce qu'on pourrait avoir la première diapo? Ou la deuxième plutôt? Peut-être que vous n'arrivez pas à lire, mais tout ce que je vous présente ici, toutes ces informations se trouvent sur le site web du NOMCOM. C'est nomcom@icann.org. Je voudrais vous expliquer très brièvement quelle est la structure du comité de nomination. Quand on a fait le tour de table, on a entendu parler de plusieurs groupes auxquels ces gens appartiennent. Tous les membres que vous voyez devant vous ont été sélectionnés ou élus par plusieurs groupes appartenant à la communauté de l'ICANN ou bien par l'équipe de dirigeants. Cela fait que le NOMCOM est représentatif de la communauté, ou bien c'est ce que l'on veut qu'il soit. Vous voyez sur la diapo les membres. La plupart de ces membres ont droit de vote, mais il y en a quelques-uns. Les carrés qui sont en bas, vous voyez RSSAC et le GAC, ces membres n'ont pas droit de vote. Puisque je parle du GAC, le GAC a un siège au sein du NOMCOM et a été invité à plusieurs reprises à y participer. L'année dernière, nous avons entamé des discussions avec le GAC. Nous avons eu une réunion publique avec le GAC pour voir comment nous pouvions faire pour que le GAC puisse participer au processus du NOMCOM. Cela a été très difficile pour une raison très simple. Il y a un seul représentant du GAC au NOMCOM et cela veut dire que cette personne court le risque de parler au nom de tout le GAC. Et sans pouvoir communiquer avec le GAC avant de le faire, cela devient compliqué. Ils ne peuvent pas communiquer avec le GAC parce que l'information sur les candidats est confidentielle. Et donc, le GAC n'a pas encore trouvé un moyen de résoudre ce problème. Et nous non plus. Donc, le siège est là, mais malheureusement, le GAC n'y a pas participé pendant les dernières années. L'équipe de direction est un petit peu différente. Nous ne sommes pas élus par la communauté directement. Le président et le président élu sont élus, choisis par le conseil d'administration et le président adjoint est choisi ou élu par le président. L'idée, c'est que le président, cette personne, gère le travail du groupe. Le président élu est là pour apprendre parce que l'année d'après, il deviendra président. Et le président adjoint est là pour soutenir le travail du président. En général, le président adjoint est le président de l'année précédente, d'habitude. Afin de pouvoir mettre à profit son expérience pour aider le président et le président élu. Le président, donc le président adjoint, ne peut pas présider les réunions. Diapo suivante, s'il vous plaît, je répète, n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions en ligne ou dans la salle. Je vais attaquer directement un point que nous considérons très important, car la communauté nous a dit qu'il est très important, et c'est le fait que nous cherchons à assurer la diversité dans notre groupe. Ce n'est pas facile quand on n'a pas de diversité au niveau du dépôt de candidature. En 2015, nous avons eu 81 candidatures, c'est beaucoup pour moins de 10 sièges. Il y a eu une grande majorité de hommes dans ces candidatures, car il n'y avait que 15% des candidatures qui correspondaient à des femmes. Sylvia en a parlé dans le petit déjeuner de DNS adressé aux femmes qui a eu lieu hier. Mais si vous regardez le NOMCOM autour de vous, il n'y a pas beaucoup de femmes qui intègrent ce comité. C'est un accident, mais il est vrai aussi que l'équipe dirigeante est constituée par des hommes blancs. Et c'est quelque chose, donc c'est un travail qui est en cours pour essayer de changer cette situation. Est-ce que quelqu'un souhaite ajouter quelque chose à cela, les membres du comité? Très bien, je vais continuer. Diapo suivante. Nous avons fait un bon travail l'année dernière, je pense, et je suis fière de ce que nous avons accompli l'année dernière, parce que nous avons essayé de tirer le meilleur profit de ce groupe limité de candidatures que nous avions reçues. Nous avons essayé donc de faire un équilibre, d'arriver à un équilibre au niveau du genre. Et on peut dire que presque la moitié, on peut pas dire la moitié exacte, mais presque la moitié, autrement, on peut pas l'expliquer autrement, mais presque la moitié des 9 sièges des correspondants dirigeants sont occupés par des femmes. Nous sommes vraiment fiers de cela et nous voulions vous montrer cela pour que vous compreniez que c'est quelque chose que qui nous tient à cœur. Très bien. Diapo suivante. Helen Chenken. Je suis membre du NOMCOM. Elle dit, je pense qu'à l'état actuel, notre sentiment par rapport à la sélection au niveau du genre de l'année dernière était basé sur l'excellente qualité des compétences des candidats. Merci beaucoup, dit Stéphane. C'était un bon commentaire. Stéphane Van Gelder prend la parole. Nous penchons pas uniquement sur l'expertise et la qualité des compétences des candidats, mais aussi à la façon dont les différents organes recrutent leurs membres. Par exemple, le conseil d'administration, en 2016, nous avons examiner la diversité au niveau du genre et la diversité géographique dans le conseil d'administration pour voir où on devait poser ou d'où on devait établir les priorités. Pour savoir comment nous pouvions faire en sorte que le conseil d'administration ait une composition plus équilibrée. Parce que presque 50% des membres du conseil d'administration vient du NOMCOM ou est choisi par le NOMCOM. Cela est important. Voilà un petit peu la composition du conseil d'administration pour cette année. Nous avons étudié comment notre sélection allait rentrer donc dans cette diversité. Ici, vous voyez les positions pour lesquelles nous cherchons des candidats pour cette année. 3 membres du conseil d'administration, 1 siège pour le conseil de la GNSO, 1 siège pour le comité consultatif at large, 1 siège pour le conseil de la CCNSO. Je tiens à dire que ces postes ou la période de dépôt de candidature pour ces postes est encore ouverte jusqu'à 20 mars. On m'a dit par le passé que ces réunions publiques ont aidé à encourager les gens à présenter leur candidature. Parce que, ils entendent parler du NOMCOM et même si les délais sont courts, une fois qu'ils apprennent l'existence de ces postes ou de ces candidatures, ils arrivent à déposer leur candidature. Donc, vous êtes encore à temps de le faire. Marc prend la parole. Excusez-moi, je suis un petit peu confus par rapport à la date limite. J'ai compris que ce délai, la date limite, c'est le 28 mars, mais que les candidatures devaient être envoyées le 18. Un intervenant prend la parole. L'appel à candidature. Le formulaire de l'appel à candidature doit être complété au 18 mars à 23h59 UTC. Si vous êtes un candidat, vous devez remplir ce formulaire en ligne avant le 28 mars. Si vous envisagez de déposer votre candidature, vous devez compléter donc en ligne ce formulaire avant le 28 mars. Stéphane reprend la parole. Est-ce que c'est compris maintenant? Y a-t-il d'autres questions par rapport à cela? Excusez-moi, je suis de dos. Excusez-moi, je ne veux pas vous voir. Si vous voulez parler, faites-le moi savoir. Diapo suivante. Voilà un aperçu de nos processus. Je vais donner la parole à mon collègue Hans Better qui vous va parler de cela. Au niveau général, dit Hans Lever, à Dublin, en Irlande, nous avons eu la première réunion en tant que NOMCOM et nous avons commencé nos activités de sensibilisation et de présentation de notre travail. Du 17 décembre au 20 mars, nous avons eu une période de dépôt de candidature et nous avons essayé d'obtenir des candidats aussi diversifiés que possible. Le personnel de l'ICANN a fait un suivi de ce dépôt de candidature. Et donc, le NOMCOM n'a pas été impliqué dans la réception de ces candidatures. Diapo suivante. Très bien. Une fois que cette période de dépôt de candidature s'achève, il y a quelques jours, jusqu'au 28 mars, pour compléter donc le formulaire de dépôt de candidature, etc. Donc, une fois que le NOMCOM a accès aux candidatures, est-ce que vous pourrez avoir la diapo suivante? Donc, c'est là que le NOMCOM commence son travail. L'autre partie, elle est réelle, disons, mais le cœur de notre métier consiste à commence, disons, une fois qu'on a reçu toutes les candidatures. Et nous faisons notre travail en différentes étapes. D'abord, on examine toutes les candidatures. Ensuite, on utilise une compagnie de recrutement professionnel pour d'autres candidatures. Ensuite, on recherche sur Internet, on vérifie les antécédents des candidats et ensuite, dans la réunion suivante de l'ICANN, celle qui aura lieu en juin, on ne sait pas encore où. Ce n'est pas public encore l'information que ce sera fait à Helsinki. J'aurais pas dû le dire peut-être. Ensuite, on a des entretiens avec les candidats au conseil d'administration. Et nous prenons une décision au niveau du comité. Et à la fin de ce processus, les membres du comité votent pour confirmer les candidats que nous avons retenus. C'est une vision très générale de notre travail. Stéphane prend la parole. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cela ? Il y a quelques diapos en plus et puis on passera directement aux questions et à l'échange. Vous voyez un petit peu le calendrier. On vous a annoncé certaines dates, mais vous voyez qu'il y a plusieurs étapes dans notre travail. Encore une fois, je répète, tout cela est sur le site web public du Nomcom. Et ça figure aussi dans le rapport final qui est publié à la fin de chaque cycle du Nomcom. Il y a beaucoup de travail pour faire en sorte que le travail du Nomcom soit le plus transparent possible. Il y a beaucoup de détails dans ce rapport sur notre façon de travailler. Vous voyez que la réunion de Dublin a été un moment clé pour la création de ce Nomcom 2016. Nous avons ensuite la période de dépôt de candidature. Après cette réunion, cette période de dépôt de candidature finit le 20 mars. Nous avons ensuite une phase d'examen. Vous voyez que nous essayons de travailler de manière très intense dans les différentes étapes, avec des réunions hebdomadaires, des téléconférences, pour essayer d'examiner les candidatures et établir une liste courte de candidats qui pourraient être retenus. Notre travail se poursuit jusqu'à la réunion de juin de l'ICANN, où nous faisons notre sélection finale. Et avant l'ICANN 57, nous devons annoncer les candidats retenus, bien entendu, pour que ces candidats soient déjà prêts à prendre leurs fonctions en temps opportun. Voilà quelques liens. Le formulaire de dépôt de candidature. Pardon, il y avait une question que je n'ai pas entendue. D'accord. Marisa Güero, au micro. Je voulais parler des critères de sélection. Que se passe-t-il si un candidat n'est pas lié directement aux affaires de l'ICANN, mais qu'il a une expertise particulière, par exemple, en matière de propriété intellectuelle ou gouvernance de l'Internet? Comment cela est considéré? C'est une très bonne question, dit Stéphane. Est-ce que quelqu'un du comité souhaiterait répondre à cette question et donner son opinion par rapport à l'expertise et les compétences des candidats? Comment cela est pris en compte?
Marc prend la parole. Marc Siden. On a eu différentes réunions avec le conseil d'administration pour discuter des capacités qui leur semblaient importantes et on a discuté avec les membres de la communauté aussi. L'ICANN a beaucoup changé ces dernières années et le fera toujours dans l'avenir. Et à mesure que l'Internet s'élargit, il est essentiel que l'on ait des gens qui soient capables d'évoluer, qui ait une vision plus large du monde, ce qui est très important pour une organisation comme l'ICANN. Cela veut dire qu'on cherche des personnes qui aient une expérience dans de grandes organisations, que ce soit à but lucratif ou à but non lucratif, ou alors des personnes qui connaissent l'ICANN mais qui n'appartiennent pas forcément à l'ICANN. En ce moment, au conseil d'administration, il y a des personnes qui siègent et qui n'avaient pas d'expérience préalable pour le gouvernement de l'ICANN, ou des personnes qui avaient ce type d'expérience, mais qui ne savaient pas très bien ce que l'ICANN allait devenir. Donc on cherche à avoir un groupe de candidats qui ait différentes expériences. Merci Marc. Alan, dit Stephen. Ellen Schenkman, membre du NOMCOM. Étant donné qu'on veut avoir des membres qualifiés pour apporter de la valeur, on cherche des fois des personnes qui viennent dans dehors de l'ICANN. Les capacités et la motivation sont plus importantes que l'expérience de l'ICANN. Merci Hélène, dit Stéphane. Tom Barrett prend la parole. Oui, pour rebondir sur ces deux commentaires, c'est vrai qu'il n'est pas nécessaire d'avoir l'expérience en matière d'ICANN, mais ce serait utile d'avoir une expérience en matière de réglementation pour comprendre ce qu'on fait au sein de l'ICANN. Le conseil actuel nous a un peu orientés concernant les types d'expertise spécifiques qu'ils souhaiteraient avoir. Donc, par exemple, ils ont un comité de vérification et ils nous ont demandé de chercher des administrateurs qui aient de l'expérience dans le domaine des états financiers, des bilans financiers, par exemple. Stéphane prend la parole. Merci, Tom. D'autres remarques ? Bien, alors, pour conclure, avant de vous donner la parole, le formulaire de dépôt de candidature est disponible en ligne. Vous avez le lien ici. Vous pouvez également suggérer des candidats, ce qui vous permet d'informer les personnes qui seraient de bons candidats. Vous pouvez ne pas vouloir participer vous-même, mais vous avez peut-être une personne à recommander. Donc, c'est ce que vous pouvez faire à travers le lien qui est sur l'écran en ce moment. Vous avez également la page web du NOMCOM de 2016. Et si vous voulez nous contacter, vous avez également une adresse de courrier électronique à travers laquelle vous pouvez le faire. Cela dit, je pense que nous sommes à la fin de la présentation. Pourriez-vous passer à la diapo suivante ? Bien, passons maintenant aux questions et aux commentaires du public. Nous allons commencer par Hélène. Hélène Schenkman. La question concernant l'expérience en matière de propriété intellectuelle ou de gouvernance de l'Internet, je veux dire que ce qui est le plus important est le modèle multipartite. C'est l'expérience dans ce domaine. Dites votre nom, s'il vous plaît. Oui, je suis Khaled Houba. Je participe à l'ICANN depuis longtemps et j'ai été membre du NOMCOM 2 années consécutives. J'ai une question concernant la diversité géographique. Je sais que les statuts constitutifs spécifient qu'il devrait y avoir une quantité minimale et maximale de personnes par région, minimum de 1, maximum de 5. Mais je ne suis pas sûre que cela s'applique aussi aux autres unités constitutives. Je sais qu'il n'y a pas d'exigence de le faire dans les statuts constitutifs. Mais ne croyez-vous pas au sein du NOMCOM qu'il est important d'assurer la diversité au sein des autres unités constitutives au moment de désigner des personnes ? Stéphane prend la parole. C'est une bonne question, Caleb. Qui veut répondre ? En tant que membre du NOMCOM qui allait désigner des membres ? Oui, Bill ? Tom Barrett prend la parole. Au sein du groupe de parties prenantes qui représente des bureaux d'enregistrement, nous avons 3 conseillers des bureaux d'enregistrement qui sont tenus d'assurer la diversité géographique. Et je soupçonne que c'est peut-être le même pour d'autres groupes. Je ne sais pas si toutes les unités constitutives ont ont ce type d'exigence pour désigner leurs conseillers. Stéphane, merci Tom. D'autres commentaires? Oui, Dave. Dave Kirsten-Noyal prend la parole. Dans la région, au sein de la LAC, pour la sélection, on demande que la diversité géographique soit assurée. Par exemple, si on cherche pour une certaine région, il faut certifier que le processus de sélection de candidats corresponde à la région spécifique. Merci, dit Stéphane. Tom? Thomas Barrett prend la parole. Je pense que c'est une bonne suggestion. Je ne sais pas si au sein de toutes les unités constitutives, on a les mêmes exigences, s'ils élisent tous leurs propres conseillers et s'ils ont cette exigence d'assurer la diversité géographique. Donc peut-être qu'on pourrait évaluer cela dans le cadre de notre processus de sélection. J'ai un commentaire très bref, c'est un intervenant du public. Je voulais faire un commentaire concernant le calendrier que vous avez présenté, mais je ne sais pas quel est le pourcentage de participation aux réunions de l'ICANN. Donc, si vous avez quelque chose à me dire là-dessus, je pense que ce serait intéressant de le savoir. On a des personnes, je sais, qui n'ont pas toujours les compétences, mais au moment de faire vos contributions, j'imagine que vous vérifiez cela. Que se passerait-il si jamais vous désignez des personnes qui ne réunissent pas les compétences nécessaires? Stéphane prend la parole. Je suis content d'être l'animateur. Vous verrez qu'il y a une liste très longue que vous pourriez consulter. Tom Barrett prend la parole. Sur le site web du NOMCOM, vous allez trouver une liste des capacités que nous cherchons dans les candidats particuliers. Donc je suggérerais de lire cette liste, de la consulter. Étant donné que le conseil d'administration demande un compromis dans beaucoup de cas, parce qu'on doit essayer de satisfaire différents intérêts et donc de trouver un terrain commun à tous ces intérêts, cela implique beaucoup de négociations, beaucoup de concessions et finalement de parvenir à une solution dans un terrain commun, comme j'ai dit. Donc cette année, on évalue la manière dont le conseil d'administration s'évalue. Donc eux, ce qu'ils cherchent pour l'évaluation des autres administrateurs est une liste de critères que nous considérons au moment d'évaluer les candidats. Donc on se dit, oui, c'est vrai qu'il a peut-être beaucoup de capacités ou beaucoup d'expérience dans un domaine, mais alors, est-ce que cette personne sait négocier, si c'est quelqu'un qui écoute les autres? Est-ce qu'il a la capacité de convaincre les autres? Stéphane, merci Tom. Mark Seiden prend la parole. Il faut également parler de la quantité de travail que cela implique d'être administrateur de l'ICANN. C'est vraiment énorme. Le conseil d'administration révise des centaines de pages de contrats, de propositions. Il faut vraiment se sentir à l'aise avec ce travail, savoir le faire et avoir le temps de le faire. Des fois, il faut abandonner d'autres activités. C'est difficile pour certaines personnes, même si elles sont très compétentes, mais elles ne trouvent pas le temps pour tout faire. Stéphane, merci Marc. Eduardo Diaz prend la parole. Oui, je voulais également dire que cela dépend un peu des régions. Des fois, on a des horaires qui nous permettent de travailler très tôt le matin ou très tard le soir. Stéphane prend la parole. Merci. Oui, c'est important, c'est intéressant. Johan Sinius, je suis très fière d'avoir été nominée dans la chambre des parties non contractantes des conseils de la GNSO et je vous remercie les NOMCOM antérieurs. Et je pense que le NOMCOM m'a désignée parce que je suis une bonne personne et que l'ICANN a intérêt à savoir mes opinions personnelles. Mais de toute façon, je sais que ce n'est pas le cas. Les personnes désignées par le NOMCOM sont très privilégiées. Et comme d'autres personnes dans d'autres communautés, je sais qu'il faut que j'agisse dans l'intérêt de mon groupe et dans l'intérêt de la communauté de l'ICANN dans son ensemble. Je suis là parce que je passe beaucoup de temps à écouter les inquiétudes du reste de ma communauté. J'essaie de comprendre tout le monde. Et je pense que c'est ça qu'il faut faire en tant que désigné par le NOMCOM. Il faut agir comme force de modération entre les différentes communautés. C'est ça que je voulais souligner. Merci. Merci, dit Stéphane. Une personne non identifiée. Oui, je vous parle d'ici pour vous demander comment vous travaillez sur ce développement du conseil d'administration. Est-ce que vous essayez d'anticiper les besoins du conseil en fonction des personnes qui finissent leur mandat? Je me demande cela parce que c'est ce qui vous permet d'essayer d'assurer la diversité en termes de genre ou de géographie. Stéphane, au micro, oui. Je vous répondrai rapidement. Oui, c'est ce que nous faisons, nous prévoyons. On fait des plans, on évalue l'impact de nos choix. Elle parle sans le micro. Stéphane prend la parole. Alors, je répète la question. Est-ce que nous avons la formation et l'encouragement pour saisir le potentiel des personnes qui pourraient être des candidats mais qui ne déposent pas des candidatures? Bien, ce n'est pas notre responsabilité. Le conseil d'administration et les autres groupes comme la GNSO, la CCNSO et la LAC, parce qu'il faut penser aussi qu'il y a d'autres comités, ce n'est pas seulement le conseil d'administration qui est impliqué ici, mais il faut absolument penser aux membres futurs et il faut penser à essayer de faciliter leur intégration. C'est vrai que les personnes venues de la communauté ont des fois un peu d'aide, mais il faut qu'on s'assure qu'on leur permet de participer, de s'épanouir, de les aider à devenir des membres de programmes qui les aident à comprendre l'ICANN. Mais les membres eux-mêmes, comme vous verrez dans notre programme, ont beaucoup d'activités et nous nous centrons surtout sur la désignation de personnes venues du groupe que nous avons pour faire nos choix. Ce n'est pas qu'on sélectionne des personnes du conseil directement. Bill prend la parole. Il faut penser en même temps que si une personne est prête à commencer à travailler, ce n'est pas nécessairement un critère valable. C'est vrai qu'il y a des personnes qui connaissent déjà l'environnement qui les entoure, mais on pourrait très bien trouver des personnes qui ont beaucoup de compétences et qui pourraient évoluer pour mieux s'intégrer dans ce poste une fois qu'elles seront à l'aise dans le contexte. Donc, ce n'est pas qu'une est plus importante que l'autre. On pourrait avoir une idée de ce dont le conseil d'administration a besoin, mais on pourrait aussi identifier des personnes sans expérience dans ce domaine qui pourraient être très bonnes, de très bons candidats pour le conseil. On a tous travaillé avec des personnes venues en dehors de l'environnement de l'ICANN et qui se sont très bien intégrées à leur poste. On a travaillé avec des quoi? Avec des personnes désignées par le NOMCOM, les NCA, dit Bill. Donc on a des personnes désignées par le NOMCOM qui participent au conseil d'administration, à la LAC, à la CCNSO, et elles se sont intégrées, elles se sont mises à niveau très rapidement. Merci Alan. Ellen Schenkman, membre du NOMCOM, ce serait peut-être utile de signaler que ce qui nous distingue des parties non contractantes et contractantes de la GNSO, nous sommes des représentantes des intérêts de la communauté dans l'ensemble et nous pensons toujours à l'avenir. Merci Hélène, dit Stéphane. Marc. Marc Seiden prend la parole. C'est vrai qu'on tient compte des personnes qui vont finir leur mandat dans les prochaines 3 années parce qu'on essaie de ne pas modifier l'équilibre. Il faut maintenir l'équilibre au cours du processus. Merci Marc, dit Stéphane. J'ai une question au fond de la salle.
Gérard Abdelkefi, je suis membre de l'Ordre national des avocats de Tunis. Je représente ici les ONG. Donc, je vous remercie pour cette occasion que vous avez donnée à la communauté de l'Internet de discuter les conditions de nomination des membres. Donc, et permettez-moi de donner deux observations ici. Est-ce que vous ne croyez pas que le fait de ne pas déterminer les conditions préliminaires d'acceptation des candidats, ça va un peu camoufler un peu les choses? Est-ce que vous ne croyez pas que le fait de déterminer les conditions, c'est plus transparent pour l'acceptation de ces candidats? Ça d'une part. D'autre part, aussi, je rejoins mon collègue Khaled qui a mis l'accent sur la répartition géographique des candidats. Et la troisième observation, c'est que je vois personnellement en tant qu'ONG que la présence des gens, bon, entre parenthèses, étrangers à l'ICANN est nécessaire pour alimenter ICANN et donner un peu un nouveau sang pour cette institution. Merci.
Merci beaucoup pour votre question. This comes to the crux of...
Je suis le seul au sein d'UNOMCOM à avoir compris la question, il me semble. Ce qui nous montre vraiment qu'on a un gros problème de diversité linguistique. Je suis sûre que vous n'aviez pas vos écouteurs à la main. Ah, Amir et moi, très bien. Nous sommes les deux à avoir compris la question. Ah, on n'a plus de personnes ici, donc il y a d'autres personnes qui parlent français. Bien, dans ce cas-là, Dave, si vous avez une question, une réponse, pardon. Je me souviens qu'il y avait trois remarques. Je ne voudrais pas me tromper, je ne me souviens pas très bien, mais je pense que la première observation concernait le fait qu'on pouvait se sentir un peu comme quoi la publication des critères de désignation des personnes n'était pas transparente. Et si ce n'était pas utile de publier les critères de sélection des candidats d'emblée, si ce ne serait pas utile, c'est vrai, il faudrait parler des critères qui sont publiés, des travaux qui sont montrés, et là, par la suite, parler de la diversité de genre et des travaux qui sont faits pour la diversité de genre. Et bien sûr, je ne sais plus quelle était la troisième remarque, parce que ce n'est pas facile de tout me rappeler. Je sais que j'ai du mal des fois, donc je vais demander à la dame qui m'a posé la question de me répéter quelle était la troisième remarque. On va d'abord donner la parole à Dave.
Je vous remercie, madame, pour votre question. Si vous allez sur les sites web de UNOMCOM, il y a déjà des critères prédéfinis. Comme on dit, individual selected candidates by UNOMCOM should have a unique opportunity to work with accomplished colleagues. Et déjà, on dit fluency in English is a requirement for the position.
C'est une exigence aussi qu'il parle bien l'anglais.
French call, le public meeting, etc. Alors je pense que déjà, avant de postuler, le candidat doit avoir une connaissance, c'est que le board ou le nom comme attendu. Et deuxièmement, pour concernant la diversité gender, quand le président de NOMCOM a fait sa présentation, il a déjà mentionné effectivement comment il est arrivé et pour l'ancien NOMCOM d'avoir 45% de membres sélectionnés et de la gente féminine. Merci.
Merci beaucoup et je prends note que tu parles parfaitement le français. Je ferai attention la prochaine fois quand je fais des petites blagues en français. That was just between you and me. So
we'll... C'était entre vous et moi et on revient à l'anglais maintenant. Voici une autre illustration, ce qui vous montre qu'il y a quelque chose d'autre à discuter. On a un critère que l'on demande aux candidats aussi, et c'est la possibilité de s'exprimer en anglais, de travailler en anglais. Je me rends compte maintenant que je suis francophone et anglophone, je suis complètement bilingue et j'ai la chance de pouvoir m'exprimer dans les deux langues et de pouvoir parler l'anglais au sein de l'ICANN, mais c'est vrai que la barrière linguistique est un obstacle d'accès pour beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ne parlent pas les deux langues, et d'ailleurs le conseil d'administration exige que tout le monde parle l'anglais pour que le conseil puisse fonctionner en une même langue. Je ne sais pas pourquoi ce serait l'anglais, c'est peut-être en raison de l'historique et de la création. Mais votre question, madame, et la manière dont vous l'avez posée en français est un bon exemple du fait qu'on a beaucoup de défis, non seulement au sein du NOMCOM, mais au sein de la communauté de l'ICANN dans l'ensemble. Sandra Hofer-Richter, merci Stéphane. J'admets que même au sein de la LAC, on a une règle qui établit qu'il faut être capable de communiquer en anglais pour devenir membre à LAC, ce qui ne s'applique bien sûr pas au conseil de la communauté à large, on essaie d'être aussi divers que possible. Mais à mon avis, si on travaille dans un environnement tel que celui de l'ICANN, on a des discussions bilatérales dans les couloirs qui sont aussi importantes que la réunion elle-même. Et donc, si les personnes désignées par le NOMCOM n'étaient pas capables de communiquer en anglais, elles pourraient peut-être ne pas profiter de toutes les occasions d'échange. Donc il faut savoir et il faut se rappeler qu'on est un groupe d'experts qui parlons un jargon complètement différent avec plein d'acronymes. Et si vous avez fait des études en médecine, vous devriez parler latin pour pouvoir communiquer. Donc c'est l'équivalent. Je ne parle pas au nom de la LAC parce que je sais qu'au sein de la LAC, il y a des personnes qui ont différents avis. Merci. Stéphane.
But I will speak in English.
Ah mais non, je veux parler en anglais. Une autre partie de la question portait sur la diversité régionale. Et je comprends que la question était spécifiquement sur les communautés en Afrique ou en Asie-Pacifique qui ne sont pas suffisamment représentées au sein du conseil d'administration ou ailleurs. Je pense en fait que cette question est liée à une autre qui a été posée par un autre collègue. Et c'est combien des personnes de ces régions participent aux réunions. Cela montre leur intérêt, leur initiative pour participer à l'ICANN, leur engagement de venir ici. Donc c'est normal qu'il y ait moins de candidats en même temps de ces régions. La sensibilisation ou l'intégration des personnes de la communauté aux travaux de l'ICANN est peut-être faite dynamiquement. Et si on pouvait le faire toujours de manière dynamique, on pourrait peut-être attirer les autres régions pour les faire participer aussi. Merci. Stéphane prend la parole. Qui veut parler? Oui, Hans-Peter Hollen. Stéphane prend la parole. Non, si ce n'est pas pour reprendre la même question, on reviendra à vous. On a une liste d'intervenants et je veux qu'elle soit respectée. Bonjour, je m'appelle Wen Jai. Je suis chinoise et boursière. J'ai deux questions et deux commentaires. D'une part, vu que je suis boursière et que j'ai l'honneur d'avoir parlé avec Dave, qui m'a reconnue d'ailleurs, parce qu'il a intégré le comité de sélection du programme des boursiers, j'ai une question à lui poser. Dave, est-ce que pour le programme des boursiers, vous avez une quantité de sièges réservés aux participants qui sont des femmes? Parce que pendant le petit déjeuner du DNS spécifique pour les femmes, la dame du NOMCOM a dit que pour assurer la diversité de genre en Afrique et en Asie, il fallait fournir les mêmes possibilités de participation aux femmes de ces régions. Donc je ne sais pas si c'est pareil pour le programme des boursiers de l'ICANN. Ma deuxième question est que pendant le premier forum public, il y a eu des questions sur la diversité. Je pense que tous les dirigeants des comités consultatifs et des organisations de soutien se demandent comment renforcer la diversité au sein de leurs comités ou au sein de leurs organisations, que ce soit en termes de géographie ou de genre. Je ne sais pas si Stéphane ou quelqu'un d'autre a dit tout à l'heure que le NOMCOM doit d'abord obtenir un groupe de candidats qui déposent des candidatures et qui soient divers d'emblée, et que ce n'est qu'ainsi qu'ils vont pouvoir trouver des personnes appropriées pour les postes qui assurent la diversité de genre. Donc la même question s'appliquerait au NOMCOM. Quelle est la pratique au sein du NOMCOM? Est-ce que vous prévoyez de prendre des mesures pour renforcer l'égalité au sein du NOMCOM? Si oui, quelles sont ces pratiques? Sinon, êtes-vous ouvert à le suggérer au conseil d'administration ou aux dirigeants de l'ICANN pour qu'ils puissent considérer comment renforcer l'égalité au sein de l'ICANN dans l'ensemble? J'ai pris un peu de temps. Je m'excuse. Et oui, et j'ai deux suggestions. J'ai entendu parler de cette réunion du NOMCOM parce que la dame ici à côté a participé au petit déjeuner du DNS. Donc je vous encourage vraiment à participer à ces sessions de sensibilisation. Les dirigeants de la communauté viennent également nous parler lors des matinées des boursiers. Je ne sais pas si vous êtes venus, mais sinon je vous encouragerai à venir aussi pour transmettre ce message. Stéphane prend la parole. Vous avez soulevé différentes questions. Ce n'est pas trop, mais Deb, je vais vous donner la parole tout à l'heure. Vous avez fait beaucoup de remarques. On travaille beaucoup sur la sensibilisation. On essaie de contacter la communauté. Donc, lors du petit déjeuner du DNS, ici à Marrakech, Sylvia a fait une présentation sur le NOMCOM et les membres du NOMCOM. On l'avait organisé auparavant et nous avons fait de gros efforts pour que vous entendiez parler du NOMCOM lors de ce petit déjeuner. Pour ce qui est des boursiers, on a des séances le matin et le soir. Moi, je ne me lève pas tôt. Donc, ce que nous avons fait de par le passé était que, au moins depuis ma présidence, et de me faire participer à une session le soir. C'est ce que j'ai fait hier. J'étais avec les boursiers hier soir. Et nous le faisons à chaque réunion pour nous assurer que les interactions que nous avons avec les boursiers soient de bonne qualité. On a de très bonnes questions. Ils nous posent des questions très intéressantes. Ils sont très intéressés. Dave était dans la salle hier soir aussi. On avait toute l'équipe de direction. On communique avec eux. Et en dehors de l'ICANN, on fait aussi nos travaux. Lorsque vous me dites, ah oui, j'ai participé à une réunion, j'ai entendu quelqu'un parler du NOMCOM, et c'est comme cela que j'ai appris de vos travaux. Dave?
Dave au micro. Je voulais répondre à la première partie de votre question concernant le recrutement des boursiers. Ce recrutement ne fait pas partie du mandat du NOMCOM. En vertu des statuts, le NOMCOM a un mandat en particulier. Nous devons donc faire les sélections suivant les orientations établies dans les statuts. En ce qui concerne le recrutement des boursiers, je suis d'accord sur le fait qu'il devait y avoir un équilibre, plus d'équilibre au niveau des genres, mais ce pour nous assurer que ce travail soit fait et qu'il y ait un équilibre de genre. Alejandra, dit Stéphane. Alejandro Acosta prend la parole. Je veux dire que au sein du NOMCOM, nous avons des sous-comités, un sous-comité de diffusion. Nous avons une présentation. Il y a plusieurs membres du NOMCOM qui travaillent beaucoup, qui voyagent beaucoup, pardon. Et cette présentation, nous la faisons dans plusieurs endroits du monde, là où nous voulons communiquer avec les gens dans le monde. Nous essayons donc de retrouver un équilibre au niveau du genre et au niveau géographique. Stéphane prend la parole. C'est très utile ce que tu viens de dire, Alejandro. Nous avons plusieurs sous-groupes dans notre comité. Merci d'avoir indiqué cela. Je vous remercie d'avoir posé votre question en anglais. Je pense que la diversité linguistique est très, très importante. Je ne pense pas que cette communauté s'attaque à cette question correctement. Si je devais poser la question que vous avez posée en chinois, ce serait un problème pour moi. Donc, je suis tout à fait conscient que vous avez entendu des gens qui viennent de trois régions différentes et qui ont parlé en anglais. La diversité linguistique doit être prise en compte au niveau de l'ICANN. Je sais que l'anglais est un critère pour la sélection de le COMCOM. Les gens doivent pouvoir s'exprimer en anglais. Julio prend la parole. En ce qui concerne la diffusion, je dirais, Urio prend la parole. Donc, je voulais dire que nous partons d'un certain nombre de candidats. Et la composition de ce groupe de candidats est ce qu'elle est. Donc il est très difficile pour nous de créer, entre guillemets, une égalité, parce que nous devons travailler avec ce qu'on a à disposition. Ce dont on dispose. Très bien, dit Stéphane. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il vous plaît, allez-y, madame. Merci beaucoup. Je m'appelle Marie Tamar. Je suis ici en tant que membre du conseil d'administration de l'autorité d'enregistrement, CIRA, et j'appartiens à un groupe de RALO canadien. Je ne sais pas si cette question a été déjà posée. Probablement, cela a été posé à plusieurs reprises. Les gens parlent du fait qu'il va falloir beaucoup de temps. Et je me dis, est-ce que je dois intervenir ou pas? Je sais qu'il n'y a pas une réponse facile à cette question. Mais est-ce que vous pourriez me donner une réponse un peu plus spécifique? Au lieu de me dire que ça va prendre du temps, c'est un engagement. Et je me rends compte que les gens souhaite faire beaucoup plus dans le cadre de cet engagement. Mais est-ce que vous avez une réponse plus spécifique au lieu de dire ça va prendre beaucoup de temps? Excusez-moi, Stéphane, mais vous parlez de quoi? C'est quoi qui va prendre beaucoup de temps? Je n'ai pas compris, dit Stéphane. L'intervenant reprend la parole. Le fait de pouvoir participer en tant que membre d'une unité constitutive ou laissons de côté le conseil d'administration, ou le fait de pouvoir participer à la LAC, ou pouvoir être élu pour participer à la LAC, ou combien cela va me coûter en termes de temps? Vous parlez des délais, du temps, dit Stéphane. Vous voulez dire quelque chose? Un intervenant prend la parole. Non, pas spécialement, mais si vous voulez, j'interviens. Je peux vous dire, j'ai participé au conseil de la GENESO pendant 4 ans. Et pour la GENESO, il y a des téléconférences, il y a des groupes de travail, il y a toutes sortes d'activités. Donc, il y a des gens qui viennent travailler au conseil de la GENESO et qui veulent savoir où ils doivent consacrer leur temps. Il y a des gens qui se consacrent à temps complet et d'autres gens disent « je fais partie d'un groupe d'une vingtaine de personnes » et voilà, ça dépend beaucoup de la personne. Mais si vous pensez à la GENESO, quelques heures par jour, ça prendrait quelques heures par jour pour préparer le travail des groupes de travail, etc. Je ne pense pas que le fait de travailler dans le conseil de la GENESO soit incompatible avec un travail à temps complet. Je l'ai fait moi-même. mais je ne peux pas parler pour la CCNSO, mais je pense que c'est plus ou moins la même chose. Le conseil d'administration, c'est une autre chose. Je pense que pour pouvoir faire partie du conseil d'administration, il faut un engagement vraiment très important. Mais je ne peux pas parler au nom du conseil d'administration, mais je ne pense pas que vous puissiez consacrer à ce travail au conseil d'administration que 3 heures. Stéphane prend la parole. Oui, c'est une question que nous posons au groupe. Nous avons différentes réponses, mais nous demandons au conseil d'administration combien de temps les gens devraient s'attendre à travailler dans le conseil d'administration. Un autre intervenant prend la parole. J'ai consacré une quinzaine à une vingtaine d'heures par semaine au travail du conseil d'administration. C'est pas moins que ça. Tom, sur notre site web, nous avons mis 20 heures par semaine minimum pour certaines positions, pour certains postes. Au niveau du conseil d'administration, c'est entre 20 et 30 heures. Pour ce qui est des autres organisations, il n'y a pas cette référence et ce serait intéressant de pouvoir faire référence au nombre d'heures que l'on devrait envisager de consacrer pour travailler dans ces groupes. Un intervenant prend la parole. Dans le document sur les dirigeants, nous faisons référence au nombre d'heures estimées de travail dans différents groupes et l'exigence minimum. Pour la LAC, c'était entre 20 à 25 heures. Pour la GNSO et la CCNSO, c'était plus ou moins la même chose. Par mois ou par semaine? Par mois. Merci pour la question, Madame, dit Stéphane. Question suivante. Bonjour, je suis Antonia Truff de la communauté technique. Si vous êtes d'accord, j'ai 2 questions. La première concerne le processus d'évaluation. J'ai constaté qu'il y a 2 périodes d'évaluation pendant le processus. Une première évaluation faite par un cabinet de conseil. Et d'où vient ce cabinet de conseil, ma première question. Et puis, les résultats de l'évaluation au niveau des résultats d'évaluation, c'est lequel qui a le plus de poids, celui du cabinet de recrutement ou celui du NOMCOM? Merci, voilà mes 2 questions. Stéphane prend la parole. C'est une très bonne question. Nous avons choisi d'utiliser un cabinet de conseil pour nous aider avec 2 éléments. D'un côté, trouver des candidats. Donc, ils ont des réseaux. Ils connaissent des gens et ils peuvent nous dire, nous conseiller des personnes qui pourraient occuper ces postes. Et puis, notre aspect de leur travail consiste le conseil par rapport aux gens qui ont déposé leur candidature. Chaque comité de nomination peut établir ses propres règles. C'est ce que nous avons fait au cours des dernières années. La raison pour laquelle nous travaillons ainsi, c'est que nous pensons qu'il y a des domaines où nous avons besoin d'une aide professionnelle. Pour votre question spécifique par rapport au poids de cette évaluation comparée au travail que nous faisons, tout passe par le même canal finalement. Nous considérons tout le monde de la même manière. Et nous avons donc l'aide de ce cabinet de conseil pour tous les candidats, afin d'avoir la même information sur tous les candidats que nous avons. Je vais demander aux autres membres du NOMCOM s'ils veulent répondre à cette question aussi. Bill prend la parole. Non, désolé, Stéphane. Est-ce que quelqu'un d'autre souhaite faire une question? 2e question alors. La dame reprend. Ma 2e question consiste à la composition du conseil d'administration. Vous avez dit que la composition du conseil d'administration devrait tenir compte de différents facteurs. Le genre, d'un côté, et quel poids a l'expertise professionnelle de ces candidats? Est-ce que c'est un autre facteur important? Est-ce qu'il y en a d'autres? Stéphane prend la parole. Oui. L'intervenant poursuit. Comment évaluez-vous les expertises des membres actuels du conseil d'administration en comparaison ou comparé aux candidats. Stéphane, nous regardons donc l'expertise des membres actuels et nous les comparons à l'expertise des candidats qui se sont présentés. On tient compte non seulement l'avenir ou le futur de la situation actuelle, par exemple. Je pense que Marc a donné un exemple par rapport à un audit. Nous regardons quelles sont les expertises dont on dispose de manière générale et nous voyons au niveau du conseil d'administration s'il y a, par exemple, je vais donner un exemple un peu controversé, mais sur les 16 membres du conseil, il y en a 15 qui sont des avocats. On ne va pas prendre un autre avocat, par exemple, ou un autre juriste. L'intervenant poursuit. Il y a des conseils d'administration qui quittent le conseil et qui ont une expérience au niveau du commerce et au niveau des entreprises. Pendant ces dernières années, donc, il y a eu une expertise concentrée plutôt sur les finances et sur le commerce. Stéphane prend la parole. Vous voulez parler des gens qui ont été élus par le NOMCOM et qui quittent le conseil. Oui, dit Stéphane, on prend en compte cela, bien sûr. Mais eux, ils ne se présentent pas une nouvelle fois. Ou ils peuvent se présenter une nouvelle fois comme candidats. Je ne sais pas si les autres membres ont des commentaires supplémentaires. Tiens, prends la parole. Je pense que c'est une excellente question. Nous avons reçu des commentaires du conseil d'administration de l'ICANN actuel qui aimeraient, comme quoi ils aimeraient avoir des gens avec une expertise en finance, dans le domaine des finances. Donc, si vous pensez qu'il y a certaines expertise qui manque au niveau du conseil d'administration, cela nous aiderait à améliorer donc notre travail. Nous invitons le public à nous faire part de leurs commentaires, de leurs recommandations. Si vous pensez qu'il faut que l'on cherche une expertise en particulier au niveau du conseil d'administration, Stéphane prend la parole. Je vais vous laisser parler et puis je vais passer la parole à Léon. J'avais demandé la parole, dit un intervenant. Hans Trobargen prend la parole. Ma question est la suivante. Je respecte énormément le travail confidentiel du NOMCOM pour protéger la confidentialité des candidats. Je me demande quelles sont les mesures prises par le NOMCOM pour protéger la confidentialité des données, des informations personnelles. Y a-t-il des mécanismes de dépôt de données sur le wiki en cas d'incident pour que l'on puisse retrouver des données au cas où on les perdrait? Stéphane prend la parole. Oui. Le comité de cette année s'est posé beaucoup de questions par rapport à cette confidentialité, y compris le fait de faire attention au logiciel que nous utilisons. Nous avons créé un sous-groupe qui se penche sur cette question. Au niveau de la confidentialité des données, les membres du NOMCOM, une fois qu'ils partent ou qu'ils quittent le NOMCOM, ils doivent donc ne pas prendre les informations ou ils doivent garder une grande confidentialité par rapport aux informations dont ils disposent. Et cela, on le fait pour protéger, bien sûr, la confidentialité des membres. Et c'est un processus en évolution au sein de comité NOMCOM lui-même. Nous essayons également de profiter des autres processus de NOMCOM qui ont eu lieu avant pour vous répondre, nous essayons de nous poser ces questions et de mettre à profit l'expérience passée pour améliorer nos pratiques. J'ai Léon et puis Bill. Léon. Merci. Léon Sanchez au micro. Quand on voit le seuil d'âge du conseil d'administration, on peut se poser la question de savoir si l'âge est un facteur à prendre en compte au moment de choisir les membres du comité d'administration. Comment faire un compromis entre l'âge et l'expertise? Stéphane prend la parole. La diversité d'âge fait partie de notre recherche de diversité. Hier, quand j'ai parlé aux boursiers, j'ai abordé cette question et de manière très franche, ils nous ont dit: vous êtes un groupe de vieux monsieur, y compris au sein du Nomcom. Moi, c'est l'exception, bien sûr, parce que je suis très jeune, mais vous savez, c'est aussi une inquiétude que l'on voit apparaître. Et c'est quelque chose dont on tient compte. Vous avez raison. Peut-être que l'on devrait tenir compte de cela au niveau du conseil d'administration. Un intervenant prend la parole. C'est une excellente question, Léon. Le problème, c'est qu'il est très difficile pour quelqu'un qui est au milieu de sa carrière ou qui commence sa carrière d'essayer de se faire une réputation dans le monde et pouvoir satisfaire aux employés et de pouvoir consacrer le temps qu'il faut consacrer à un poste dans le conseil d'administration. Pour quelqu'un qui a déjà fini sa carrière, ce n'est pas impossible. En plus, les caractéristiques des membres du conseil d'administration au niveau du tempérament, de la maturité, de l'expérience, de la gestion des situations difficiles, cela concerne plutôt quelqu'un que l'on pourrait dire un vieux monsieur. Je pense qu'une personne d'un certain âge est mieux adaptée à ce type de poste. J'aimerais bien que l'on puisse trouver quelqu'un plus jeune qui puisse avoir le temps à consacrer à un tel travail. Stéphane prend la parole. C'était une excellente question. Bill, au micro. Il y a quelqu'un sur Skype qui pose la question suivante. C'est une question pour... je vais vous la poser à vous. Dans le Nomcom, il y avait un sous-comité chargé de la logistique des voyages. Il y a eu des problèmes au niveau des visas. Est-ce que cela... est prise en compte au niveau des membres. Les décisions des visas sont affectées par plusieurs facteurs qui peuvent être contrôlés par nous et certains aspects ne sont pas sous notre contrôle. Les participants ayant plus d'expérience devraient aider ceux qui n'ont pas autant d'expérience dans le domaine des visas. Je voudrais savoir comment le sous-comité chargé des visas fonctionne. Est-ce qu'ils ont des suggestions? Est-ce qu'ils font une coordination avec le personnel au niveau des problèmes? Est-ce qu'il y a un moyen d'y accéder? Stéphane prend la parole. Je ne vais pas répondre à la place de Hans, qui est le chargé de sous-comité qui se charge de ce type d'affaires. Je sais que vous le savez, bien sûr. Donc, ce sous-comité n'a pas pour tâche de résoudre les problèmes de la communauté de l'ICANN, mais de s'assurer que les membres du Nomcom n'aient pas trop de problèmes au niveau des visas pour leurs problèmes, pour leurs réunions en face à face. Voilà la réponse courte. Je vais m'arrêter là. Et bien sûr, nous pouvons donner à cette personne le mail du Nomcom. Et donc, s'il y a d'autres questions, nous pouvons y répondre plus tard. Je vais clore cette séance en disant deux choses. Tout d'abord, nous avons réussi à passer en revue les points de l'ordre du jour en une heure et demie, ce qui est très encourageant. Et deuxièmement, je pense que c'est très important d'avoir des réunions ouvertes du Nomcom dans le cadre des réunions de l'ICANN, dans des circonstances et des conditions qui nous permettent de faire participer à la communauté. Et je pense qu'il y a eu un bon échange, c'est très encourageant. Dans l'avenir, nous pouvons donc approfondir certains sujets, comme celui des questions que l'on devrait poser aux candidats. Il y a des informations par rapport à cela. Le personnel de l'ICANN, du département juridique, fait un travail sur les candidats. Et il y a eu un échange extrêmement positif, extrêmement riche aujourd'hui. Je vais clore donc cette séance en vous remerciant de votre participation. Nous allons bien entendu reproduire cette expérience dans l'avenir. Merci beaucoup.